Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Bienvenue dans le forum Espace Femmes. Espace Femmes est une émission du studio Kalangou qui parle des questions de femmes sous tous leurs aspects. Vous pouvez l'écouter sur nos 52 radios partenaires à travers tout le pays. Comment atteindre l'équité professionnelle au Niger? C'est le thème de notre émission de ce soir. Au Niger, en dehors de la loi numéro 2000-008 du 7 juin 2000 qui permet à chaque citoyen nigérien, sans discrimination aucune, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants élus, et d'accéder dans les conditions d'équité aux fonctions publiques, et qui a été modifiée en 2014 puis en 2019, il n'existe pas une autre loi qui exige la parité et l'équité professionnelle. Depuis 2019, la loi sur le quota exige un taux de 30% des femmes ou des hommes dans les postes nominatifs et 25% aux postes électifs. Alors, pourquoi il n'y a pas d'équité? Comment faire pour atteindre cette équité professionnelle au Niger? Pour répondre à nos questions d'aujourd'hui, nous recevons comme invité Mme Kadi Sofo de la Congafen. Bonjour Mme Kadi.
Bonjour.
Et Mme Balkis Sawane de la CDTN. Bonjour Madame.
Bonjour.
À la présentation, je suis Zainab Abdou et à la technique, nous avons Abdelkader Tchombiano. Alors, je commence par vous, Mme Kadi Sofo.
Oui.
Vous qui faites partie des pionnières de la lutte pour la cause des femmes, dites-nous pourquoi, depuis le 13 mai 1993 à aujourd'hui, l'équité n'a pas été atteinte.
Merci. Avant de répondre à votre question, je me présente d'abord. Moi, c'est Hajia Kadi Sofo. Je suis la trésorière générale de la Congafen, la coordination des ONG et associations féminines du Niger qui regroupe en son sein 77 structures féminines. Donc, ma présidente a dit de vous transmettre ses salutations à son nom propre et à mon nom. Je vous remercie de nous avoir accordé cette antenne pour nous édifier de l'équité. Pourquoi l'équité n'est pas atteinte à nos jours? Elle n'est pas atteinte. Il y a des raisons. Quelles sont ces raisons? Nous avons les présentateurs socioculturels. Nous avons la non-participation effective des femmes aux prises de décision. Nous avons aussi les femmes qui ne se combattent pas dans les partis politiques. Nous avons aussi un manque de synergie d'action des femmes. Donc vous voyez, tout ça là, ce sont des
causes.
Un manque de synergie d'action, c'est-à-dire nous femmes, on n'est pas solidaires. Oui, chacun part à son besoin, chacun, donc chacune voit son intérêt. Donc alors qu'il faut voir l'intérêt de toutes les femmes, il ne faut pas que moi je vois mon intérêt, toi ton intérêt et elle son intérêt propre. Il faut qu'on se réunisse pour prendre une seule décision. Nos actions que nous menons, il ne faut pas que nous les faisons en apartheid. Il faut que nous nous rassemblons toutes les femmes, y compris les jeunes, pour nous battre. Puisque vous savez, le droit là, ça ne se donne pas, ça doit s'arracher.
Je viens à vous, Madame Balkis Sawani. Selon vous, cette équité sera-t-elle atteinte un jour?
Oui, bonjour Madame. Et je me présente, Madame Balkis Sawani, la présidente du Recofet, donc le réseau confédéral des femmes travailleuses au niveau de la CDTN. Cette équité, un jour, verra le jour. Avec l'espoir, surtout avec la loi tout récemment de 2017 de la rétention de la jeune fille à l'école. Quand la jeune fille sera retenue à l'école, vous voyez dans les écoles, les tendances ont changé dans les classes avec l'effectif des filles qui varie donc au-dessus des effectifs des garçons. Au niveau du lycée, si les classes des lycées, vous voyez, les premières sont plus nombreuses que les premiers et c'est au niveau du supérieur que vous avez, les filles ne veulent pas aller à l'université, elles veulent aller dans les institutions. Mais sinon, avec cette loi de la rétention des jeunes filles, nous avons l'espoir de changement de tendance avec la rétention de la jeune fille à l'école. Mais actuellement, avec ces difficultés, donc la persistance des relations d'inégalité, le non-respect de l'équité entre femmes et hommes, faible niveau d'instruction des femmes, l'application non effective de la loi sur le quota, les pesanteurs socioculturels, le poids des charges familiales, ceci limite l'accès de la femme à avoir l'équité. La femme est surchargée, mais avec cette loi de 2017 de la rétention de la jeune fille.
C'est la loi qui contribue à ce que la jeune fille reste à l'école.
À l'école, oui. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui. Depuis l'application de cette loi, nous avons des tendances des filles à l'école, donc en tout cas en dessus des chiffres, donc des années.
Donc il y a eu amélioration.
Il y a eu amélioration dans les écoles. Vous allez dans une classe, vous allez voir 60% des filles dans l'effectif d'une classe, 60%, et vous allez voir garçons 40%. Et si vous prenez dans les primaires du CI au CM2, vous avez c'est les filles qui occupent les premières places et jusqu'au lycée aussi.
Mais généralement, le problème, au fait, il commence au niveau du collège et surtout de la zone rurale.
Oui, et ça, c'est les tâches ménagères. Mais avec cette rétention, il y a des ONG qui contribuent aux familles, soit par des céréales à donner aux familles et que la fille reste à l'école pour étudier. Et avec la création des internats, ça va un peu marcher.
Donc, je reviens à vous, Madame Kelsofou. Mm-hmm. Vous avez tant lutté pour la loi sur le quota. Selon vous, cette loi uniquement est-elle suffisante?
Bien. Donc, cette loi-là, elle n'est pas aussi suffisante. Vous savez, au vu du pourcentage des femmes que nous avons par rapport à la population, dont 51%, cette loi sur le quota n'est pas suffisante et beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, c'est-à-dire nous, au niveau de la Congafen, nous sommes en train de former, de sensibiliser nos femmes, de faire des plaidoyers, de participer à la participation politique. Il faut que la femme participe à la politique. Sinon, vraiment, si la femme ne fait pas la politique, je pense qu'elle ne va pas arriver à un poste décisionnel. Donc, nous les encourageons, nous sommes en train de les encourager et qu'elles soient aussi autonomes. Parce que vous savez, les partis politiques, là, ce sont les hommes qui les nourrissent. Donc, la femme, si toi, tu n'es pas autonome, tu ne peux pas accéder à un poste décisionnel. Toujours toi, la femme, tu t'occupes des affaires féminines. Les affaires féminines, quand on vient aux réunions ou bien au conseil, on dit, toi, là, va t'occuper de la restauration. Donc, avant de terminer sa restauration, déjà, toutes les décisions ont été prises, vous savez. Donc, si la femme est autonome, en tout cas, elle peut se tenir la tête haute. Elle peut prendre toutes décisions que l'homme peut prendre.
Madame Balkis Sawani, tout à l'heure, vous avez parlé des paysanteurs sociaux. Selon vous, ce sont ces paysanteurs qui empêchent d'atteindre cette équité?
Oui, les paysanteurs socio-culturels empêchent d'atteindre cette équité en majeure partie. Puisque une fille, dès qu'elle à l'âge de 17 ans, 16 ans, où les parents l'enlèvent de l'école, l'arrachent de l'école d'une façon pour la faire marier. Les parents disent aussi l'université, les études longues ne sont pas faites pour les femmes. Voilà ce qui empêche aux jeunes filles d'atteindre leur objectif. En majorité. Celles qui atteignent leur objectif avec les études longues sont celles-là qui sont issues des familles où ces familles-là sont des fonctionnaires. La majeure partie, ce sont des filles issues des familles des fonctionnaires où les papas et les mamans les aident à traverser ces obstacles. Dans les celles-là qui évoluent dans l'autre famille,
milieu rural
et des familles non aisées, vraiment, la famille même conseille à la fille, vaut mieux aller te marier, les études longues ne sont pas pour toi. À la fin, le papa dit, j'ai pas de quoi payer même les modules, le transport pour aller à l'université. Voyez donc, ça devient un obstacle pour la fille. Elle est obligée de suspendre ses études pour aller se marier et se caser.
Donc, selon vous, c'est dans la famille qu'il y a ce manque d'équité.
Exactement. Quand tu as une fille et un garçon dans ta propre famille, en distribuant les tâches à la maison, la petite fille est plus surchargée que le petit garçon. C'est dès le bas âge qu'on montre à la fille que toi, voici tes tâches et ces tâches-là, ce sont les tâches ménagères plus élargies, plus en tout cas surchargées que celui du petit garçon qui, lui, il va à l'école, il revient, c'est pour aller jouer. Alors qu'elle, elle est toujours dans les tâches ménagères. Vous voyez, dès la maison, donc l'équité est rompue. C'est la maison familiale même qui rompt avec cette équité. Et ça nous suit jusqu'à la profession.
Et dites-moi, Madame Kadesofou, selon vous, pourquoi les entreprises préfèrent engager des hommes plutôt que des femmes?
Bien, les entreprises, elles préfèrent engager les hommes plus que les femmes. Là, je ne vois pas que... Là, c'est une discrimination. Ils sont en train de faire une discrimination, puisque la femme, elle peut faire le travail que l'homme peut faire. Vous voyez, par exemple, nous avons des femmes électriciennes, nous avons des femmes mécaniciennes, des femmes menuisières. Hein? Donc là, je vois que c'est une discrimination. Donc la discrimination, là, nous sommes en train de lutter pour ça. Par exemple, dans les écoles professionnelles, vous voyez, les femmes, les filles plutôt, les jeunes filles et les jeunes garçons, ils ne sont pas discriminés. Ils font le même travail. Ils font le même travail. Là, donc, pour les entreprises, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une discrimination à faire entre l'homme et la femme, puisque la femme, elle peut faire le travail. Plus mieux même faire le travail que l'homme peut faire.
Avant de poursuivre notre émission d'aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages de certains citoyens sur notre sujet d'aujourd'hui.
Oui, effectivement, l'équité professionnelle au Niger peut être atteinte. De un, il y a les textes qui régissent le code du travail ou bien le monde du travail. De deux, ça dépend de la volonté politique. Parce que les textes même disent travail égal à salaire égal. Mais malheureusement, on constate dans les administrations nigériennes ou bien dans les services, il y a vraiment une discrimination. Alors que les textes les prédisent. Donc je pense qu'avec une volonté politique, avec une volonté des employeurs qui engagent même les travailleurs à respecter les textes, vraiment je ne vois aucun problème pour atteindre cette équité professionnelle. En tout cas, à mon avis, vraiment l'équité professionnelle peut être atteinte s'il y a une volonté.
Donc moi je dirais que ça serait difficile, pour ne pas dire impossible, parce que nous voyons dans nos services, il y a vraiment certaines tâches que les femmes ne peuvent pas exécuter. Il y a certaines professions que les femmes ne peuvent pas exercer. Donc vraiment, on ne peut pas parler d'équité à ce niveau. Du moment où les femmes sont mises à l'écart, elles n'ont pas sur certains plans la capacité d'exercer certaines fonctions. Bien que nous réclamons équité, donc vraiment c'est une chose qui n'est pas facile. Mais on peut quand même attribuer un quota aux femmes, un quota pour certaines tâches. Mais parlons d'équité, vraiment, ce n'est pas possible.
Donc, venons à vous, Madame Balkis Sawani. Vous avez écouté tous ces témoignages. Quelle réaction vous avez?
La réaction dont j'ai, l'équité est bel et bien possible. Avec le code du travail, à travail égal, salaire égal, ça c'est vraiment le code qui le dit. Et tout travail que l'homme peut faire, je ne vois pas un travail que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. Vous voyez, même sur le corps d'armée, maintenant les femmes ont intégré l'armée. Vous voyez, les jeunes filles sont dans l'armée. Et là-bas même, l'équité n'est pas respectée. Vous voyez, on prend une zone, au lieu de recruter et femmes, filles et garçons, on prend une seule fille sur 13 ou 15 garçons. De là-bas même, l'équité est rompue. Et sur le lieu de formation, ce que les garçons font, la fille-là le fait aussi. Donc, je vois un travail, c'est ce travail-là qui est très difficile et que les filles arrivent à le faire. Nous avons beaucoup de femmes qui sont dans l'armée et qui travaillent avec les hommes et qui sont mieux que les hommes. Et c'est, on dit que les femmes ne peuvent pas aller sur le terrain de guerre. Si, même en temps de guerre, les femmes-là qui sont dans l'armée peuvent aller sur ces terrains. Il suffit que la femme se décide, elle peut tout faire. Je ne vois pas un travail qu'un homme peut faire et que la femme ne peut pas le faire. Il suffit d'avoir un soutien, soit de son mari et de sa famille, là, en tout cas de la société aussi. Elle peut le faire. L'équité là, ça, on peut atteindre l'équité là. Si, en tout cas, nous avons la volonté, nous femmes, si nous avons la volonté, nous pouvons l'avoir. Et si l'État encore respecte le quota, l'État respecte toujours la rétention de la jeune fille là. Si on donne des chances à la fille de rester dans les lycées, dans les universités, d'étudier, vraiment l'équité là, on peut l'atteindre, à dépasser même les hommes. Vous voyez, dans l'enseignement est féminisé. Beaucoup de femmes, que d'hommes. Mais pourquoi? Pour les autres métiers aussi, vous allez, on va atteindre ce stade-là. Ou d'autres métiers aussi, vous allez voir que les femmes prendraient le dessus des hommes. Inch'Allah.
Madame Kadisofo, que pouvez-vous nous dire sur ces témoignages?
Oui, surtout vraiment pour le premier intervenant, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Avec une volonté politique, on peut atteindre cette équité. Mais pour la deuxième intervenante, je ne sais pas si c'est ma fille ou bien ma cousine. Vraiment, il nous faut attacher nos ceintures. Nous allons attacher nos ceintures coûte que coûte pour atteindre cette équité, Inch'Allah. Oui.
D'accord. Donc, je vous pose la question suivante. Comment faire pour atteindre cette équité?
Bien. Nous, au niveau des ONG et associations féminines, notre première action, c'est de nous mettre en concertation, de nous réunir, de travailler en synergie, de faire un plan d'action et qu'on aille ensemble défendre nos droits. Nous sommes en train de former les femmes sur les droits et devoirs de la femme et leur montrer les voies de recours, surtout au niveau des partis politiques, les femmes qui sont dans les partis politiques, les montrer comment elles peuvent défendre leurs droits. Quand tu connais ton droit, tu peux la défendre. En tout cas, c'est ça qu'on est en train de préparer. Puisqu'on a beaucoup fait, mais on ne se fatigue pas. À la Congafène, en tout cas, on se tient toujours debout pour défendre les droits de la femme.
Mais vous défendez les droits de la femme. Est-ce que les femmes elles-mêmes, elles ont conscience de leurs droits?
Bien, ça dépend de la situation de la femme. Et vous savez, quand nous avons dit les présentateurs sociaux, il y a la malinterprétation du Coran. Quand, par exemple, on dit une femme, toi, tu ne peux pas mettre un pantalon, ou bien une femme, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Donc, celle qui n'a pas l'esprit, qui n'est pas éduquée, qui n'est pas partie à l'école, l'analphabète, elle ne va pas comprendre. Donc, elle va tenir sourde oreille pour dire, moi, en tout cas, moi, je ne peux pas faire ceci, moi, je ne peux pas faire. Ou bien, quand c'est dans la famille, le mari dit, toi, tu ne dois pas faire ceci, je veux te faire cela, je te ferai cela, alors que c'est tout à fait le contraire. Une fois quand tu es chez ton mari, en tout cas, il ne va plus t'occuper de toi. Mais quand toi, tu as ton salaire, tu as ton boulot, est-ce que tu vas attendre ton mari pour aider ta famille, pour occuper de ta famille? Donc, nous sommes en train de les former, de les sensibiliser, tout ça, pour que leur vie de condition soit améliorée. Que ça soit dans la politique, que ça soit au travail, que ça soit dans la vie sociale. En tout cas, nous sommes sur pied d'œuvre pour les former.
Ok. Madame Balkissa, je vous repose la même question. Comment faire pour atteindre l'équité professionnelle au Niger?
Pour atteindre l'équité professionnelle au Niger, oui. Je commence par le milieu scolaire. Combattons les violences basées sur les genres. Combattons les violences en milieu scolaire. Si ces genres de pratiques sont bannis, la fille peut bel et bien étudier et aller jusqu'à avoir l'emploi. Sur le lieu de travail, combattons aussi les harcèlements, la violence en milieu du travail, donc avec la convention 690 qui, en tout cas, lutte contre ces violences faites aux femmes en milieu du travail. Vous savez, la plupart des femmes, quand elles viennent, les filles amènent des dossiers pour un travail. Si le DG propose, je te ferai ça, pour accéder, il faut faire ça, il faut qui est antisocial, la fille, croyante qu'elle est, elle préfère revenir à la maison, faire ses tâches ménagères, que d'aller se donner pour, en tout cas, assez vulgaire là. C'est ça qui empêche beaucoup de filles à travailler avec ces vulgaires DG qui sont placés dans les sociétés, dans les directions. Pour avoir accès, pour accéder à un emploi, il faut faire des sorties avec la fille, il faut faire des... En tout cas, c'est ça qui... Imagine une femme professionnelle qui accède à un concours professionnel à l'université, son mari va lui dire, au lieu d'aller à l'université, reste à la maison, parce que les gourous là sont là-bas, les enseignants chercheurs, ils cherchent les femmes et les filles, ils n'épargnent personne. Donc, beaucoup de femmes renoncent à ces examens pour revenir à la maison à cause de ces pratiques. Si on combat ces violences en milieu du travail et en milieu scolaire, l'équité là, on peut atteindre l'équité là. Et si l'État encore respecte la rétention de la jeune fille, je m'accroche à la rétention de cette jeune fille à l'école et de ces internats là, le suivi de ces internats, que ces filles soient en tout cas internées. Moi, j'ai évolué dans des écoles internats. Donc, vous voyez, à l'internat, tu n'as rien à faire sauf à étudier. Si ces internats datant reviennent, wallahi, l'équité, là, on peut l'atteindre. Et si on combat aussi ces violences faites aux femmes et aux filles, là, l'équité, là, on va atteindre cette équité.
Mais comment combattre ces violences?
Combattre ces violences, c'est à nous, femmes et filles, à dénoncer. Dénonçons, sortons et dénonçons les malfaiteurs là. Au village, même pas au village, dans le quartier, on viole ta fille, tu as honte de dire « ma fille a été violée » pour que plus tard elle n'ait pas de peur de ne pas avoir un mari. Alors qu'elle a été violée et on cache, on te donne 50 000 et tu fermes ta bouche. Alors qu'il y a des instances de juridiction qui sont mises en place maintenant pour ces cas-là. Donc vous voyez, si on dénonce, beaucoup vont laisser ces pratiques vulgaires pour revenir à la norme. Et j'appelle à un changement de comportement à nous femmes. Changeons le comportement. Changeons nos comportements. Si on change le comportement en dénonçant les pratiques malsaines, nous allons atteindre ce que nous voulons. Mais en se taisant, wallahi, on va pas avancer. On ne va pas avancer.
Madame Kadisoufou, vous avez entendu ce que Madame Balkissa a dit. Selon vous, cela est-il suffisant?
Oui, elle a tout à fait raison. Le fait de ne pas dénoncer, là, ça nous bloque tout. Nous avons eu des formations, mais les femmes, vous savez, elles ont peur de dénoncer. Parce que quand elles croient que quand tu vas dénoncer à la police, on va t'appeler comme témoin. Et donc, que ce soit dans le quartier ou bien dans le village, tu seras mal vu. On va dire que c'est elle qui est partie dire. Ou bien la personne même, elle n'a pas confiance en soi-même. Si on arrête la personne, le dénonciateur, il va dire que c'est moi qui l'ai dénoncé. Il est maintenant en prison. Vous savez, tout ça, là, c'est pas une bonne chose. Mais je la soutiens que les femmes, les parents, il faut qu'on dénonce. Quand on voit des violences basées sur le genre, il faut qu'on dénonce. Si on dénonce, peut-être qu'on aura une amélioration sur ces violences.
Écoutons maintenant le portrait de Madame Harouna Fatouma.
Née en 1954 à Gaya, Madame Harouna Fatouma est actuellement présidente du conseil d'administration de la MICREF, une institution de la microfinance. Elle est mère de 6 enfants. Elle devient la première femme attachée en santé mentale du Niger après sa sortie de l'UNSP Alfred Kenoum de Ouagadougou en 1994. Madame Harouna Fatouma nous parle de son parcours.
J'ai fréquenté l'école primaire de Filengue où j'ai obtenu le certificat d'études primaires élémentaires en 1967. Donc, en 1968, j'ai eu la bourse. Cette bourse m'a permis d'être orientée au cours normal de Tillabéri, où j'ai passé 3 ans. La troisième année, j'étais malade. J'étais obligée d'abandonner les études. Mais néanmoins, comme il y a un besoin d'enseignants, j'ai été recrutée comme enseignante. Chemin faisant, j'ai abandonné de moi-même. Quand j'ai abandonné, je suis venue, j'ai fait le concours d'entrée à l'UNSP. Dieu merci, j'ai été admise. J'ai fait la première formation d'infirmier certifié où j'ai obtenu mon diplôme vraiment avec une mention en 1974-75. Ensuite, quelques années plus tard, plus précisément en 1988, un peu avant la conférence nationale souveraine, j'ai repassé un autre concours professionnel où j'étais brillamment admise et j'ai fait mes 3 ans au niveau de l'ENSP de Niamey. J'ai obtenu le diplôme d'état d'infirmière d'état. En 1994, je me suis représentée à un concours où j'étais brillamment admise aussi pour aller faire ma spécialisation au niveau du Burkina Faso, en l'occurrence à l'ENSP Alfred Kenom de Ouagadougou, où j'ai obtenu le diplôme d'attaché en santé mentale. Donc, après ma sortie, j'ai été affectée au niveau de l'hôpital national de Niamey en tant que coordinatrice de l'unité de soins psychiatriques. Ensuite, j'ai été affectée au niveau du programme national santé mentale en tant que coordinatrice par intérim. En 2004, j'ai été admise à faire valoir mes droits à la retraite, mais mon chef de service, ayant constaté mes compétences, il m'a dit que « Ah, Hajja, tu ne peux pas partir à la retraite, c'est une perte pour nous. On va te signer un contrat. » Donc on m'a signé un contrat jusqu'en 2017, où j'ai quitté. Aujourd'hui, présentement, je suis médiatrice communautaire de l'Union africaine autour des questions de paix et sécurité, surtout dans le cadre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Je suis membre de la CONGAFEN aussi, la coordination des ONG et associations féminines du Niger. Je suis membre de l'ONG ADENA, qui lutte contre la drogue. Vraiment, le parcours est grand. Je crois que le Niger, j'ai fait un peu partout, parce que moi, vraiment, je suis une femme de terrain. J'aime le terrain.
Madame Tegane Sahara Silla Boukar, directrice générale de la MECREF et collègue de Madame Harouna Fatouma, apprécie la collaboration. Selon elle, c'est une femme très dynamique.
Madame Harouna Fatouma Issak est notre présidente du conseil d'administration. Elle était au comité depuis 2020. Donc vraiment, on collabore bien avec elle et vraiment, elle nous soutient. Elle arrive à nous encadrer vu l'expérience qu'elle a sur le terrain pendant toutes ces années-là. Donc vraiment, elle arrive vraiment à nous booster, à nous pister sur les trucs administratifs, sur l'éducation financière à travers les femmes en milieu rural, en langue. Vraiment, et c'est une bonne formatrice pour nous. Elle nous encadre vraiment des formations, par exemple, sur le leadership féminin, sur comment organiser les groupements en union, en fédération. Vraiment, elle a tous ces atouts-là et nous, on arrive à profiter avec elle.
Madame Harouna Fatouma lance un appel aux jeunes, et aux femmes en particulier, afin qu'ils ne suivent pas la voie de la facilité et de se mettre au travail.
Tout ce que je voulais dire à nos jeunes enfants-là, vraiment parce que maintenant, moi, ce que j'ai constaté, que vous m'excusez, les jeunes aiment trop la facilité. Ils aiment l'argent. Vous dites de chasser les anciens. Vous voulez de l'argent. Il faut au moins s'accrocher aux anciens là. Les anciens, pas n'importe qui. Ceux qui font du leadership transformationnel. Parce qu'un leader doit faire du leadership transformationnel. Ce que la jeunesse montante peut copier et avoir quelque chose de gain de cause. Mais nos enfants, ils sont trop pressés. Et vitesse n'est pas synonyme de précipitation. Moi, j'ai un appel à lancer, ils n'ont qu'à aller doucement. La conscience là et la vocation seules peuvent vous amener à bon chemin. Mais courir derrière l'argent, non, il ne faut pas courir derrière l'argent, mais l'argent courira derrière la personne un jour. Donc il faut se mettre en tête que c'est mon pays, pour la souveraineté de mon pays, pour la prospérité de mon pays et de mon peuple, je dois me sacrifier, je dois me faire violence, je dois amener ma contribution pour à l'édifice de mon pays. Je n'ai pas d'autre pays si ce n'est pas le Niger. Le Niger, c'est notre patrie, qu'ils se disent que c'est leur patrie, qu'ils amènent leur contribution et une contribution positive, qu'ils cessent d'être des gens de la rue. La rue n'a jamais enfanté quelqu'un, qu'ils s'approprient de ce que leurs parents ont fait.
Donc, je reviens toujours à vous, Mme Balkissa Sawani. Au niveau de la CDTN, que faites-vous comme activité pour atteindre cette équité au niveau de la CDTN?
Oui. Nous menons des activités pour atteindre l'équité professionnelle. Récemment, nous avons, le 8 mars, nous avons fait une formation à presque toutes les femmes sur l'emploi et l'accès à l'emploi des 100 femmes au Niger. Et nous menons des offensives comme la lutte contre ces violences basées sur les genres. Nous menons des offensives aussi sur les luttes donc contre les violences en milieu du travail. Nous faisons des académies des femmes et des jeunes chaque année le 11, le 10, le 10, le 11, le 12 mai et le 13 mai en clôture. Donc ça, c'est pour sensibiliser les jeunes et les femmes sur le travail décent, sur les violences faites en milieu du travail, sur, en tout cas, sur l'accessibilité des femmes à des postes de responsabilité dans les syndicats. Il faut que les femmes accèdent. Quand on te propose pour être SG, il ne faut pas dire non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Non, tu peux. Avec tout récemment, avec les nominations des préfets, nous avons fait une remarque au ministre de la Santé que beaucoup de femmes n'ont pas été élues, n'ont pas été nommées, pardon. Il a dit qu'ils ont appelé plus de 100 femmes qui ont dit non, elles ne peuvent pas. Vous voyez, c'est les femmes même qui ont dit elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Nous avons dit, vous n'avez pas tapé à la bonne porte. Si vous avez tapé à la bonne porte, les femmes là
vont répondre.
Quand on appelle une femme, viens, on te donne ses postes. Montre que tu es femme et tu peux le faire bel et bien comme l'homme l'avait fait.
D'accord. Donc, je viens à vous, Madame Kadisofou. Quels sont les principaux obstacles auxquels vous faites face dans votre lutte pour l'équité?
En tout cas, les différents obstacles que nous observons, nous avons d'abord, je l'ai dit, la mauvaise volonté politique. Il y a une mauvaise volonté politique dedans. Il y a l'analphabétisme. Mm-hmm. Si la femme elle n'est pas alphabète, elle ne va rien comprendre. Il y a aussi la pauvreté aussi. Tout ça, ce sont des défis que nous constatons pour atteindre cette équité. Mais au niveau de la CONGAFEN, avec les partenaires, tout récemment avec DECAF, ils sont en train de nous former sur tous ces thèmes-là pour que nos objectifs soient atteints.
Ok. Madame Balkis Sawani, toujours, comment la CDTN travaille-t-elle avec les entreprises et les décideurs politiques pour promouvoir l'équité professionnelle au Niger?
La CDTN travaille avec les entreprises pour atteindre l'équité professionnelle avec le code du travail. On fait rappel à ces entrepreneurs que les femmes sont actrices aussi. Les femmes peuvent faire les tâches que les hommes font. Et le recrutement des femmes dans les entreprises, favoriser le recrutement des femmes dans les entreprises. Et au niveau de l'État, nous avons, à la fonction publique, nous avons au total 61 574 agents, dont 24 153 femmes, contre 37 422 femmes. Et le...
Non, hommes.
Hommes, contre 37 421 hommes. La CDTN mène un cheval donc de bataille pour que la femme soit recrutée au niveau de la fonction publique avec salaire égal,
à travail égal.
Et quelle que soit la catégorie, de recruter donc mieux, beaucoup plus de femmes pour permettre l'émancipation des femmes, l'intégration des femmes. Vous voyez, même si on prend les congrès internationaux que la CDTN participe, donc à l'international, on recommande aux syndicats d'amener plus de femmes que d'hommes. Et la CDTN fait tout pour que les femmes travailleuses participent à ces congrès pour s'éclairer et pour prendre les tâches des acteurs syndicaux. Et aussi pour mieux faire intégrer la femme dans des instances supérieures. Voilà comment la CDTN fonctionne. Elle préfère, s'il y a une promotion, on préfère donner cette promotion à la femme qu'à l'homme. Puisque si on voulait trois pour une participation, la CDTN fait participer deux femmes et un homme pour promouvoir cette équité. Et là, ça dépasse même l'équité. Ça dépasse l'équité. La CDTN fait tout pour que les femmes travailleuses soient au cœur de ces exigences. Puisque si la femme elle est éduquée, elle est sensibilisée à elle, si elle revient, elle peut sensibiliser plus que l'homme qui a participé à un événement extérieur.
Ok. Nous sommes bientôt à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Donc, Madame Kadesofo, quel appel avez-vous à lancer à propos de l'équité professionnelle?
Bien. L'appel que je lance, surtout au gouvernement, c'est de prendre en compte la place de la femme. C'est tout ce que nous voulons. Et nous, femmes aussi, il faut que nous nous mettons en synergie pour faire des actions, pour atteindre notre objectif. Il faut que nous travaillions ensemble, nous défendons ensemble, car le droit là, ça ne se donne pas, ça doit s'arracher. Donc on se tient sur nos pieds pour chercher nos droits et les arracher. Donc l'appel que je lance, surtout à la transition, de prendre en compte la place de la femme.
Donc, Madame Galkissa, je vous repose la même question. Quel appel avez-vous pour l'équité professionnelle au Niger?
L'équité professionnelle au Niger, je lance un appel aux nouvelles autorités de prendre en compte la structure genre. Donc, que la femme soit, en tout cas, que la femme voit les objectifs, soit donc une finalité ou bien que la femme ait accès à l'emploi facilement que l'homme et que la femme, si elle a ses diplômes, qu'elle soit nommée au même titre que l'homme et que ces femmes qui ont des expériences, des diplômes, qu'elles soient nommés au même titre que les hommes là qu'on nomme.
Donc à diplôme égaux, à poste égaux.
Merci. Vraiment, nous les femmes, avec ces nouvelles autorités, les femmes sont oubliées. Il faut voir le ministère de la promotion de la femme est dissous. Il n'y a plus de ministère de la promotion de la femme. Nous sommes avec le ministère de la Santé, un ministère gigantesque où les droits des femmes sont sous-entendus. Il faut voir, les femmes sont oubliées. Nous sommes oubliées. Nous lançons un cri d'appel à ces nouvelles autorités, vraiment de faire appel à la femme, de nous donner nos places, de respecter le quota. Au moins, si on ne nous augmente pas, qu'on respecte le quota.
Merci beaucoup.
Merci.
Chers auditeurs du studio Kalangou, nous sommes maintenant à la fin de notre émission d'aujourd'hui, dont le sujet était « Comment faire pour atteindre l'équité professionnelle au Niger ?» Nous avons reçu comme invité Mme Balkissa Sawani de la CDTN. Merci Mme Balkissa.
Merci.
Et Mme Kadesofo de la Kwangafen. Merci Mme Kadesofo. Selon nos invités, pour qu'il y ait équité professionnelle au Niger, il faut la rétention de la jeune fille à l'école, sensibiliser les femmes sur leurs droits, lever les tabous en société, lutter contre les violences faites en milieu du travail et que les femmes s'assument et soient solidaires dans leur lutte commune.
À la présentation, j'étais Zainab Abdousseidou et à la technique, Tchombiano Abdoulkader. Place maintenant à notre rubrique Loti.
Affairage.
Salam alaikum.
Ami alaikum wa salam. Hey Nafisa, c'est toi si toi chez nous.
Ah, donc de ne pas venir.
Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Faut rentrer et prendre place.
Merci beaucoup.
Et ta famille?
Tout va bien, alhamdoulilah. Si je suis là tous les matins, c'est pour te demander un énorme service, grande sœur Khadija.
Ah, j'espère pouvoir t'aider, dis-moi.
Je dois cuisiner pour la fête au moins 10 plats pour quelques membres de la famille de mon mari pour la fête. Et jusqu'à présent, mon mari n'a pas eu son salaire. S'il te plaît, avance-moi 50 000. Je vais me décharger de cette tâche. Je te rembourse bientôt, je te promets.
Nafisa, tu n'as jamais cuisiné donc pour amener chez ta belle famille?
Si, mais cette année, les choses sont un peu dures pour nous. Mais regarde, durant tout le mois de Ramadan, je n'ai amené ma tâche chez personne. Hier, j'étais chez mes beaux-parents. On remerciait fortement mes belles-sœurs, comme ça pour leurs efforts. Je suis sûre que je suis indexée pour amener mon plat.
Nafisa, c'est un bon geste que tu cherches à faire. Mais pourquoi t'endetter pour cela? Quand tu avais les moyens, tu l'as fait. Maintenant que tu n'en as pas, ne t'impose rien. Tes proches doivent comprendre.
Regarde, grande sœur, c'est de ma belle famille qu'il est question. Si tu ne veux pas me donner, dis-moi, je vais m'en aller.
Non, écoute-moi. S'il te plaît, reste calme. À part ta belle famille, il y a aussi ta propre famille et nous avons des coutumes ici qui font qu'on cuisine de temps à autre pour rendre visite et c'est une bonne chose. Mais quand on n'en a pas, on n'y peut rien.
Mes grandes sœurs, certaines ne comprennent pas. Une année là, ma tante me l'a reproché. Comme quoi, elle n'a jamais vu la couleur de mes tasses. Je sais ce qu'elle voulait dire.
Des choses comme ça ne vont jamais manquer. Et on vit en société, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais ce n'est pas une obligation, je te le répète. Et puis, les repas de fête, la plupart des temps, vu que les gens en reçoivent beaucoup, ils ne peuvent pas tout manger. Soit ça se gâte, soit on fait sécher.
Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire maintenant?
Bon, dans un premier temps, tu dois te dire que tu dois agir en fonction des situations. Maintenant que les gros moyens te font défaut, tu peux par exemple cuisiner pour deux personnes ou une seule. Tu amènes, une autre fois tu fais pareil, jusqu'à satisfaire tout ce beau monde. Je parle bien évidemment de ta belle famille et de ta famille aussi.
Ah, c'est une bonne idée ça. Et comme ça, mon porte-monnaie ne les sentira pas non plus.
Eh oui, tu as tout compris et tu te reposes encore plus. Tu n'es pas obligé de tout faire le même jour. Mais garde une idée en tête, ce n'est pas une obligation.
J'ai compris. Comme tu ne voulais pas me prêter de l'argent, tu as de bonnes idées.
Non, loin de moi cette idée. Moi-même, c'est ce que je fais quand les temps sont durs. Je fais avec les moyens de bord.
En tout cas, merci. Je te laisse. Je vais aller faire ma liste pour savoir par qui commencer.
Bon courage à toi.
Merci.